Bonjour à tous, et en particulier ceux qui sont sur Zoom. Nous sommes en période de fête, et Noël vient de passer, mais nous voulons rester dans l'esprit de Noël. Alors je vous demande d'ouvrir votre Bible dans Matthieu au chapitre 1er. Et de partager ce matin avec vous l'histoire des mages qui ont fait énormément de kilomètres pour arriver jusqu'à Jérusalem puis Bethléem. Nous connaissons l'histoire. Peut-être même que nous n'en sommes plus dans une position d'émerveillement parce qu'on entend tellement souvent chaque année. Mais moi, je vais vous raconter l'histoire d'un chat. Un chat qui a été perdu par ses propriétaires là-bas, dans le nord de la France. Et ses propriétaires, et en particulier les enfants, étaient tellement tristes de ne pas rentrer à la maison dans le sud avec leur chat. Et ils ont fait leur deuil de leur chat. Et un jour, voilà, un petit matou gratte à la porte. Blessé, sale, affamé. C'était leur chat qui a traversé toute la France pour revenir à la maison. Et les médias en parlent même. Comment se fait-il qu'un petit animal comme cela puisse rentrer à la maison à pied, à quatre pattes, ayant fait tant de kilomètres? Et on en est émerveillé. Et dans cette histoire des mages que nous allons lire d'ailleurs dans le chapitre 2 de Matthieu, à partir du verset 1er, nous allons essayer de nous rappeler que ce n'est pas une histoire banale. Matthieu, l'évangile de Matthieu, nous allons lire les 12 premiers versets. Matthieu, chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au verset 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qu'a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'évangile de Matthieu parle de mages, mages d'Orient. Bien sûr, il n'est pas question de roi mage, il a été déjà dit. C'est la tradition qui a apporté cela. On leur a donné même des noms. Ces personnages sont plutôt mystérieux, des mages. Et puis qui ont fait de longs voyages venant de l'Orient jusqu'à Bethléem, voir le petit enfant pour l'adorer. Le terme mage nous fait peut-être penser à des contes ou à de la légende. Alors je me tourne vers les jeunes, Alexis, peut-être, à quoi ça te fait penser, les mages, quand on te parle de mages? Non? Merlin l'Enchanteur? Tu connais pas l'histoire du Merlin l'Enchanteur, le mage? Hein? Dans cette littérature celte ou médiévale? Mais tu connais l'histoire, les contes d'Aladin? Ça parle aussi de mages. Mais c'est vrai que ça ne peut pas être le Merlin l'Enchanteur, parce que ça c'est celte, alors que ces gens-là, nos mages ici, viennent de l'Orient. Ça pourrait être faisant partie des Mille et Une Nuits, conte d'Aladin. Hein? Avec la lampe magique contenant le génie. Mais non. L'histoire dont nous avons ici n'est pas une légende ni un conte. C'est une histoire vraie. Pourquoi on dit que c'est une histoire vraie? Parce que cette histoire a été datée. C'est du temps de Hérode, on peut rajouter même Hérode le Grand, qui a vécu entre 34 et 4 avant Jésus-Christ. C'est marqué dans l'histoire. L'histoire est datée. Et ce sont les Romains, leur Sénat, le Sénat romain, qui a nommé Hérode comme roi des Juifs. Ça aussi, c'est une manière de dater une histoire. Donc, il ne s'agit pas ici de quelque chose qui serait comme notre mage Merlin l'Enchanteur ou notre peut-être Harry Potter ou encore l'histoire d'Aladin, conte d'Aladin, des Mille et Une Nuits. Mais qui sont ces mages d'Orient? Quel est le sens de leur visite à Jésus? Pourquoi des étrangers, pourquoi ce n'étaient pas des bons juifs? Pourquoi des étrangers, et en plus ces étrangers-là, étaient des mages, des astrologues, qui peut-être vénère les étoiles, les planètes. J'aurais mieux accepté si j'étais une personne comme l'Éthiopien de Philippe, hein, de Samarie, qui avait fait un long voyage de l'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem, c'est-à-dire un étranger, mais qui adoptait la religion juive. Non, c'était des étrangers pour de vrai, avec une autre religion. Et qui se déplace pour aller adorer Jésus. Ça doit signifier quelque chose. On a dit qu'ils viennent d'Orient, à l'est de la Palestine. Si vous voyez la carte, à l'est de la Palestine, plus loin, il y a l'Irak où se trouvait la Babylone. Et encore plus loin, à l'est, il y a la Perse, l'Iran. Là où il y avait l'histoire d'Esther. Il venait de quelque part par là. Et si c'est ça, on pourrait essayer de voir un peu leur caractère par rapport à l'histoire de Daniel. Dans l'histoire de Daniel, il est question de sages, de magiciens, de chaldéens, à qui on faisait appel pour résoudre certains problèmes. Et nous avons vu que Daniel avait un esprit qui surpassait ces gens-là, parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Donc, imaginons des gens comme cela, baignés dans une autre culture, une façon de voir les choses, une autre religion. Mais ils avaient le sens d'observer les astres. Non seulement peut-être pour vénérer ou faire de la divination, mais aussi d'une manière pratique. Et ils savent comment est composée cette voûte céleste. Et un jour, paf, quelque chose qui n'était pas là habituellement. Qu'est-ce qui les ont amenés à penser que cette étoile nouvelle annonçait la naissance du roi des Juifs? Qu'est-ce qui les a poussés à connaître ça? Il y a sûrement une raison, mais les textes n'en parlent pas. Ce qui est certain, c'est que ils ont trouvé en cette étoile une raison très importante pour faire un déplacement. Mais laissons un peu l'image d'un côté. Et voyons un peu les gens de Jérusalem quand ils sont arrivés à Jérusalem. Qui sont-ils, ces gens-là? Ils se sont adressés aux gens qu'ils rencontraient. Mais là, il y a eu quelques réactions. Au verset 3, il dit, le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Première réaction. Et tout Jérusalem avec lui. C'est-à-dire qu'il y avait bouche à oreille il y a des étrangers sur la place publique qui demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Mais il n'y a pas de naissance au palais. Donc le roi qui est troublé et toute la foule et le peuple avec lui. Tout Jérusalem avec lui. Alors on s'adresse aux spécialistes. Qui sont ces spécialistes? Les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Les intellectuels. Ceux qui savent lire et écrire. ceux qui connaissent la Bible, je dirais par cœur. Alors, ces gens-là, connaissant la Bible par cœur, citent Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Ils n'avaient pas besoin, ces sacrificateurs, ces scribes, d'aller sortir leur concordance et essayer de trouver. Ils connaissaient les prophéties concernant le Messie. Et en lisant les évangiles, nous constatons qu'ils étaient aussi dans l'attente de ce Messie. Mais quel Messie? Leurs connaissances bibliques ne les ont pas mis à cœur d'aller vérifier. Peut-être il y a seulement Hérode qui avait un peu peur pour sa place, qui a commencé à gratter un peu. Mais il ne s'est pas déplacé non plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné importance à ce que disaient les mages. Et puis, les événements ne leur ont pas permis de concevoir que cet enfant-là n'a pas la carrure d'un héros. Ils attendaient un héros, un chef militaire, politique, mais un chef. Et en principe, ce genre de personnes naissent dans un foyer où papa et maman sont des personnes de caractère qui connaissent déjà, qui sont publiques. Mais là, donc, Jésus, pour eux, ou cet enfant qui vient de naître, n'avait là pas du tout l'apparence d'un héros. Aussi, ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie-roi attendu. Bien sûr, nous faisons référence à l'évangile de Jean, au chapitre 1er, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Le verset même, elle est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas connue. Le verset parle de connaître et reçu. Donc, il n'était pas du tout reconnu comme le Messie. Et ça me fait penser à une autre histoire. Vous connaissez la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. 9, 9. L'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem plus tard. Que disaient les gens? Voici ton roi vient à toi. Ils louaient Jésus comme celui qui vient du Seigneur. Et à cette occasion, Luc rapporte un événement particulier. Dans Luc au chapitre 19, l'histoire se passe dans Luc chapitre 19, il est dit, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples, fais-les taire. Et Jésus leur répond, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. Gardons à l'espoir cela. dans l'esprit, cela. Avant la naissance de Jésus, l'histoire d'Israël est truffée de prophéties parlant de sa venue. Mais le jour est venu, Israël n'a rien vu et n'a pas bougé. Jérusalem tout entier. L'étoile apparut dans le ciel aux yeux de tous, parce qu'une étoile, ça se voit de partout, non? Mais seuls les mages habitués à garder la tête vers le ciel, à scruter les astres, l'ont vu. Non seulement qu'ils l'ont vu, mais reconnu comme l'étoile du roi des Juifs qui vient de naître. Il y a une différence de voir et de reconnaître qu'il s'agit là d'une étoile, signe de la naissance du roi des Juifs. Alors ils se sont déplacés. Événement pour eux tellement capital qu'ils ont fait leur bagage et n'ont pas oublié les cadeaux. Donc ils ont pris leur temps de se préparer. Ils se sont déplacés seulement parce qu'ils ont vu et reconnu cette étoile. Et ils disent à la foule de Jérusalem et au roi, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Matthieu 2, verset 2. Et c'est là que je vais revenir à mon verset. Si se taisent, les pierres crieront. Si Israël, roi et sacrificateur et scribe, ne l'a pas reconnu, n'a pas reconnu à travers cette étoile la naissance du Messie, Dieu lui a fait déplacer des mages, des étrangers, de surcroît des astrologues, des magiciens, des gens qui font de la divination. Dieu les a fait déplacer parce que Jérusalem s'y tue. Jérusalem n'a pas honoré leur Messie. Les mages, ces étrangers astrologues, ont fait le déplacement pour adorer le petit enfant. Je voudrais lire un petit passage dans Romains au chapitre 10. Romains au chapitre 10, à partir du verset 18 au 21. Romains chapitre 10, verset 18 à 21. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais aux sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Mages, le peuple de Jérusalem, son roi, ses intellectuels, ses chefs religieux. Si ceux qui devaient accueillir le Messie et l'adorer se taisent, des étrangers sont appelés à le faire à leur place. L'image sont les pierres qui crient à cette occasion. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus dit ceci: « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jean 10, au verset 16. Ésaïe a prophétisé: « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » En quelque sorte, ces mages sont les précurseurs de ces autres brebis du Seigneur Jésus, confirmant ainsi la promesse faite à Abraham: toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse, hein, on se promène un peu dans la Bible. Par exemple, au chapitre 21, on parle encore de ces nations, de ces étrangers. Au verset 24, il est question de la Nouvelle Jérusalem. Déjà au verset 23, la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront en sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. On parle encore de ces étrangers. J'ai essayé de vous montrer combien le voyage de ces mages était un voyage extraordinaire. Et eux-mêmes illustraient de ces gens qui vont être accueillis par le Seigneur et qui ne font pas partie d'Israël. Comme nous. Mais ils nous donnent une leçon, sinon plusieurs leçons. Nous savons que les scribes et les sacrificateurs avaient de la connaissance. L'apôtre Paul dit « la connaissance enfle ». Je ne sais pas si ce sont les chevilles ou la tête. Mais l'amour édifie. 1 Corinthiens 8, verset 1er. Les sacrificateurs et les scribes qui ont informé Hérode connaissent Michée 5.1 et sûrement toutes les autres prophéties sur le Messie. Mais leur religion les ont rendus stériles. Ça veut dire, il n'y a pas de, c'est pas de suite. Ils sont restés sans réaction et ils ne se sont pas déplacés pour accueillir et adorer le Messie. Jésus a dénoncé cette vision de la croyance. Vous vous rappelez de l'histoire, ou plutôt de la parabole du bon samaritain. Qui est-ce qui a récupéré, pris soin du pauvre gars qui a été battu par les voleurs? Le sacrificateur qui est passé? Le Lévite? Non. Jésus a combattu cette forme de croyance qui regarde de haut les autres. Qui est mon prochain? Dit la personne. C'est lui qui a fait les bonnes actions envers le pauvre blessé du chemin. Alors Jésus conclut, mais fais-toi de même, fais-en de même. Avons une religion qui nous rend stérile, c'est-à-dire qui nous met, je dirais, sur notre réserve et ne nous projette pas vers l'avant. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des frères, hein, que je respecte d'ailleurs, qui me parlent toujours de la doctrine qu'il faut défendre. La doctrine est bonne, cherchons d'être fidèles à la parole. Mais si ça reste là, ça ne vaut rien. Si ça n'a pas une débouchée vers les autres, vers ceux qui sont différents. Mais ne me faites pas dire que je repousse la doctrine, il faut que je prenne seulement aimez-vous les uns les autres. Mais la bonne doctrine est équilibrée. Ne nous rend pas paralysés. Nous pousse vers les autres. Exprime une vie. Une vie, ça bouge. Et nous voyons ici que nos sacrificateurs, nos scribes, je rajoute par rapport à l'histoire du bon samaritain, le lévite, avait une religion stérile. Qu'en est-il pour moi? Première question et leçon. Les mages ont vu son étoile, une découverte qu'ils ont jugée importante. Ils se sont déplacés et ont fait un long voyage pour adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Vous croyez que l'histoire s'est arrêtée là? Ils ont vu l'enfant. Ils l'ont adoré véritablement. Ils ont déposé à ses pieds les cadeaux qu'ils avaient apportés avec le sens que nous n'allons pas aborder ici, hein, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et ce petit enfant est devenu leur messie. Ils ont quitté leur confort là-bas en Orient. Ils se sont décarcassés. Et ceci me fait rappeler encore une autre histoire de Jésus avec un homme qui voulait le voir. Un petit bonhomme, Zachée, qui est monté sur un arbre. Parce qu'il était tellement petit qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Alors c'est Jésus qui s'est invité chez lui. Et vous vous rappelez la fin de l'histoire de Zachée. Luc chapitre 19, verset 8. Luc chapitre 19, verset 8. À la fin de l'entretien, le repas, l'accueil de Zachée, voilà que Zachée se lève, le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Rencontrer Jésus, pour lui, c'était changer de vie. Et ses mages se sont bougés pour rencontrer Jésus. Quitter son confort, se débarrasser même de ce que l'on croyait être plus précieux de nos idoles. Est-ce que les mages ont abandonné leurs idoles? Je ne sais pas, l'histoire n'en parle pas. Mais rencontrer Jésus va jusque-là. Est-ce que quand j'ai rencontré Jésus, est-ce que moi qui m'entretiens une relation avec lui, est-ce que je garde quelque part mes idoles, mon trésor, là où il y a ton trésor, là est ton cœur. Deuxième leçon pour une réflexion. Chrétien, alors je me trouve dedans, nous pouvons connaître notre Bible par cœur. Mais si nous ne prenons pas la peine de décider et d'agir selon ce que la parole dit, nous péchons. Pourquoi je dis ça? Parce que Jacques le dit. Si donc, qui c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques chapitre 4, verset 17. 'Histoire des mages. Vu, reconnu, décision, déplacement. Quelqu'un a prié tout à l'heure, Seigneur, que 2021, nous ayons cette foi audacieuse, comme David. Est-ce que c'est ma prière? Je termine dans l'histoire des mages. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Prions. Notre Dieu, notre Père, si nous sommes venus vers toi, c'est pour être des adorateurs du Fils de Dieu. Et à travers le Fils de Dieu, le Père. Sois loué, parce qu'aujourd'hui encore, tu veux nous stimuler pour être des croyants qui agissent parce que Jésus est celui qui est au bout de notre histoire, qui accompagne notre vie. Sois adoré, Père. Amen. Pour ceux qui veulent un peu le résumé avec plus de versets, peuvent me demander, je distribuerai tout à l'heure.
Merci pour cet enseignement très riche et à reméditer au fur et à mesure du temps. C'est des points que même moi, j'avais jamais pensé. Quelques petites annonces. Mardi, réunion sur Zoom à 15h. Vendredi, rendez-vous sur Zoom à 18h30. Et dimanche, bien sûr, rendez-vous en présentiel. Alors, nous avons reçu un courrier de Françoise Perrault. Pedot, pardon. Chers frères et sœurs, merci pour votre soutien si fidèle tout au long de l'année 2020. Toutes nos affections. Donc on le mettra derrière pour, si vous voulez le lire. Il reste un dernier pain quotidien. Donc, si vous voulez le dernier pain quotidien, il faudra aller voir Jean-Denis. Le stand, donc il n'y aura pas de stand biblique pour ce samedi. Oui, c'est le stand biblique. Par contre, il y a ce stand-là qui est là encore pour ce dimanche-là. Donc, après le culte, n'hésitez pas à venir le voir. Des anniversaires. Je sais que le 31 décembre, il y a l'anniversaire d'Evangeline. Le 1er janvier, il y a celui de Christabel. Et le 2 janvier, celui de Madame Chabani. Et après, il y en aura encore d'autres qui vont suivre au fur et à mesure de janvier. Voilà. Pour terminer, je voudrais vous insuffler, en cette veille de Nouvel An, un chant qui nous rappelle ce que nous croyons. Que Christ est né, s'est donné, pour que nous puissions naître et partager cette bonne nouvelle. Je vous propose de chanter donc le 102 dans le GEM, le 371, nous croyons. Alors, pour les humains. Le 102, le 371. Nous croyons. Vous pouvez vous lever si vous voulez.
Nous croyons en Dieu, le Père, le Créateur de l'univers.
Thank you.
Bon dimanche à tous et bonne semaine.
Merci.